Et voici le journal de Margot Delpierre que je salue. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le puissant général Qassem Soleimani, émissaire de Téhéran pour les affaires irakiennes, a été tué dans un raid américain à Bagdad. L'Iran déplore une escalade extrêmement dangereuse et imprudente, explication de notre correspondant à Washington.
Carlos Ghosn est visé par un mandat d'arrêt international. Les autorités libanaises l'ont reçu hier, mais l'ex-patron de Renault-Nissan n'est pas inquiété pour l'instant.
Après des mois de paralysie politique, le socialiste Pedro Sanchez devrait être reconduit à la tête du gouvernement espagnol, et cela grâce au parti indépendantiste catalan.
Gabriel Matzneff se défend après la sortie du livre de Vanessa Springora. Elle y décrit une relation sous emprise alors qu'elle n'avait que 14 ans et lui 50. Pour Gabriel Matzneff, il s'agissait d'un exceptionnel amour. Il dit ne pas mériter l'affreux portrait qu'elle dresse de lui.
Le collectif SOS Retraite, qui regroupe 16 professions libérales, appelle à la grève à partir d'aujourd'hui contre la réforme des retraites. Et la question du jour, Guillaume.
Eh bien, l'opinion publique française a-t-elle toujours été favorable aux grèves? On posera la question à Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion de Harris Interactive.
Le Pentagone l'a confirmé cette nuit. Les États-Unis ont tué le général iranien Qassem Soleimani, mort dans un bombardement à Bagdad, en Irak, et cela sur ordre du président américain Donald Trump. Il était un dirigeant des gardiens de la Révolution, figure très populaire d'Iran et considéré comme un adversaire redouté des États-Unis. La situation diplomatique ce matin est extrêmement délicate. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Washington. Que s'est-il passé cette nuit ?
Alors écoutez, c'était tard hier soir à Bagdad, tout près de l'aéroport international, un convoi de deux voitures visées par une frappe aérienne, peut-être un drone, mais ça n'est pas confirmé à l'heure qu'il est. Les deux voitures explosent, il y a au moins 8 morts, et quelques heures plus tard, on apprend que parmi ces morts, il y a deux personnalités importantes. D'abord, le numéro 2 du Hajd al-Shaabi irakien, c'est cette milice pro-iranienne qui mardi avait lancé un assaut contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Et puis plus important encore, ce général Soleimani, en milieu de soirée ici à Washington, le Pentagone confirme que c'est bien lui qui a été visé et qui a été tué sur ordre du président, parce que, affirme le ministère américain de la Défense, ce général Qassem Soleimani préparait des attaques contre des personnels militaires et des diplomates américains. Vous l'avez dit, ce haut gradé est considéré comme un proche du guide suprême Ramenei. Il dirigeait depuis 20 ans cette force Al-Quds. C'est lui qui, en quelque sorte, pilotait les opérations extérieures de cette unité d'élite des gardiens de la Révolution. Et c'est pour ça, notamment, que Washington le tient pour responsable de la mort de plusieurs centaines de soldats américains ces dernières années, notamment sur le théâtre irakien.
Ce matin, le guide suprême iranien crie vengeance et décrète 3 jours de deuil national. L'Iran affirme qu'il s'agit d'une escalade dangereuse. Grégory, doit-on craindre des représailles ?
Écoutez, il va falloir voir évidemment comment la République islamique d'Iran réagit à la mort de son général, mais on est après plusieurs mois d'extrême tension entre l'Iran et les États-Unis. Souvenez-vous, fin juin par exemple, on était passé tout près d'une guerre. Trump avait expliqué qu'il avait failli à 10 minutes près lancer une attaque contre l'Iran avant de se raviser, et ce après la destruction d'un drone américain. Quelques semaines plus tard, il y avait eu la crise des bateaux attaqués dans le détroit d'Ormuz, et puis en septembre, la destruction d'installations pétrolières en Arabie Saoudite. Et là encore, les Américains avaient pointé du doigt la responsabilité de Téhéran, mais sans répliquer. Cette fois, en tout cas, on est passé à un autre stade. On entre, si vous voulez, en territoire inconnu dans cette crise entre les deux pays.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Qui était le général Soleimani? Son portrait à suivre dans la revue de presse internationale d'Adrien Toffolet à 7h35. Le Parlement turc autorise le président Recep Tayyip Erdogan à envoyer des militaires en Libye. Ankara veut soutenir le gouvernement de Tripoli contre le maréchal Haftar, homme fort de l'Est libyen. La motion a été votée hier et risque d'aggraver le conflit qui divise la Libye. Interpol a envoyé hier une notice rouge au parquet général libanais, un avis de recherche internationale qui vise Carlos Ghosn, ex-patron de Renault-Nissan, poursuivi au Japon pour des malversations financières et réfugié au Liban. C'est maintenant aux autorités libanaises d'agir ou non une fois cette notice reçue. Dans ce cas précis, Carlos Ghosn ne devrait pas être arrêté. Explication d'Aurélien Colli.
Une notice rouge d'Interpol, mais pas de menace pour Carlos Ghosn. La procédure est longue, complexe et la décision politique, au final, entre les mains des autorités libanaises qui ont toujours soutenu l'ancien PDG.
Ça ne change rien.
Ibrahim Najjar, ancien ministre de la Justice et professeur de droit international.
Au Liban, c'est le droit libanais qui est applicable. Le principe veut que les nationaux ne soient pas extradés. Il n'y a pas d'accord bilatéraux sur cette question entre le Liban et le Japon. Par conséquent, d'une manière générale, il va être très difficile d'obtenir une extradition.
Les autorités japonaises le savent très bien. Alors pour l'ancien garde des Sceaux du Liban, cette notice rouge émise par Interpol à la demande de Tokyo ressemble surtout à un sursaut d'orgueil.
Le gouvernement japonais semble être pressé de montrer qu'il ne se laissera pas humilier par cette cavale. Donc le gouvernement japonais est en train de mettre les bouchées doubles pour relancer les poursuites.
À l'offensive judiciaire déployée par le Japon, Carlos Ghosn opposera lui son offensive médiatique à partir de la semaine prochaine, avec notamment une conférence de presse en homme libre quasi intouchable au Liban.
La correspondance d'Aurélien Colli à Beyrouth, Carlos Ghosn a affirmé hier avoir organisé seul son départ du Japon. Il assure que son épouse n'a pas joué de rôle dans sa fuite. La voie est libre pour Pedro Sanchez, le socialiste devrait être reconduit à la tête du gouvernement espagnol. Un feu vert obtenu grâce aux 13 députés du parti indépendantiste catalan qui vont s'abstenir de voter mardi prochain lors de l'investiture par le Parlement. Le parti l'a annoncé hier soir. Pedro Sanchez, arrivé au pouvoir en juin 2018, formera un gouvernement de coalition avec le parti de gauche radical Podemos, Mathieu de Taillac.
La gauche indépendantiste catalane va permettre à la gauche nationale espagnole de gouverner. Les 13 députés d'Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, ne voteront pas contre l'investiture de Sanchez mardi prochain, mais ils s'abstiendront, de quoi laisser la voie libre, tout juste, à la majorité de gauche. Pere Aragonès, vice-président du gouvernement régional, est l'un des principaux cadres de ERC.
Le Conseil national d'Esquerra Republicana a décidé à 96,5% des voix de valider cette table de négociation avec l'État. Et donc, nous nous abstiendrons lors de l'investiture du candidat Pedro Sanchez au Parlement espagnol au cours des prochains jours. Nous mettons cet accord au service du pays et des institutions.
Cette table de négociation prévue dans l'accord entre les socialistes et les indépendantistes doit permettre d'aborder tous les sujets de dispute entre Madrid et Barcelone, y compris les thèmes les plus tabous pour les autorités espagnoles, comme un référendum d'autodétermination. Le pari est risqué pour tout le monde, à commencer par Pedro Sanchez, que la droite accuse déjà de céder face aux sécessionnistes.
Mathieu de Taillac à Madrid. Les incendies en Australie pourraient s'aggraver ce week-end. La marine australienne a commencé à évacuer les habitants d'une ville du sud-est cernée par les feux de forêt. Depuis les premières flammes en septembre, au moins 20 personnes sont mortes. De nombreux autres sont portées disparues. L'équivalent de deux fois la surface de la Belgique a déjà brûlé.
7h08 sur France Culture, la suite de votre journal. Margot Delpierre, l'écrivain Gabriel Matzneff, mis en cause dans le livre de Vanessa Springora, qui sera notre invitée aux environs de 7h40. Eh bien, l'écrivain Gabriel Matzneff lui a répondu hier.
Cette dernière raconte dans Le Consentement, un roman autobiographique sorti hier, sa relation avec l'écrivain sous son emprise, alors qu'elle était mineure et qu'il avait 50 ans. Gabriel Matzneff s'est défendu dans un texte publié par l'hebdomadaire L'Express. Il affirme qu'il a vécu une véritable histoire d'amour avec elle à l'époque et que ce livre est, je cite, un affreux portrait de lui. Ersin Lebovitch, vous avez lu sa réponse.
Pas de mea culpa, pas d'excuses, pas de demande de pardon. L'idée générale de ce long texte est de présenter le livre de Vanessa Springora comme une entreprise de démolition. Un portrait dénigreur, écrit Gabriel Matzneff, un portrait hostile, viré au noir, destiné à me nuire, à me détruire, dit-il. Un témoignage qu'il tente aussi de décrédibiliser en expliquant qu'à plusieurs reprises après leur rupture, il a gardé contact avec Vanessa Springora, croisé au salon du livre ou dans un café parisien. Des retrouvailles toujours douces, selon Matzneff, et même joyeuses. Alors aujourd'hui, lorsque Vanessa Springora décrit l'écrivain comme un manipulateur, un prédateur, lui le reçoit, dit-il, comme un coup de poignard dans le cœur. Il écrit qu'elle a eu tort de rompre pour des chimères de son imagination. Et comme s'il accumulait des preuves, Matzneff restitue les mots d'amour écrits par l'adolescente. Sauf que cela, Vanessa Springora ne le nie pas. Ce qu'elle dénonce, c'est ce que cet adulte a fait de l'amour sincère. sincère qu'elle lui portait.
Vanessa Springora, qui sera l'invitée de Guillaume Erner tout à l'heure à partir de 7h40 sur France Culture. Le prix Renaudot de l'essai qu'a reçu Gabriel Matzneff en 2013 fait aussi beaucoup parler. C'était maladroit de lui accorder cette distinction, a estimé hier l'auteur Frédéric Becbédé, membre du jury. Il n'aurait jamais eu le prix pour un de ses journaux intimes. Ce n'était en aucun cas la consécration d'un monstre pédophile. Fin de citation. À 5 jours de la reprise de la concertation sur la réforme des retraites, les professions libérales se mobilisent à leur tour pour défendre leurs régimes autonomes. Le collectif SOS Retraite, qui réunit des avocats, des médecins, infirmières, des pilotes de ligne ou encore du personnel navigant, appelle à une grève glissante à partir d'aujourd'hui. Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, est aussi l'un des porte-parole du collectif.
Nous avons une solidarité financière vis-à-vis de régimes déficitaires. Mais au-delà de ça, ce sont les médecins qui paient pour les médecins. C'est ainsi que nous avons mis en place des réserves qui nous permettent de faire face au trou démographique qui a été créé, vous le savez, par les politiques sanitaires successives. Nous avons 7 milliards de réserves et ces réserves nous permettent d'assurer les retraites des médecins alors qu'il y a beaucoup moins de cotisants à cause de ce fameux trou démographique. Il est hors de question que demain, ces réserves passent en quelque sorte dans le pot général, ce qui mettrait en péril les médecins qui sont à la retraite actuellement ou qui vont prendre leur retraite. Et puis ensuite, au-delà de ça, ce qu'il faut bien comprendre, pour les médecins encore une fois, c'est que notre code d'ontologie même a un article qui nous demande d'avoir une solidarité professionnelle. Et c'est cela que nous défendons. Force est de constater en matière médicale que lorsque l'on laisse l'État gérer, ça se passe très mal. Aujourd'hui, vous le voyez, de l'hôpital à la ville, nous avons une médecine qui est en crise profonde, comme jamais elle n'en a connue. Et tout ça parce qu'on a laissé l'État gérer et Bercy gérer. Or, la médecine est chose trop sérieuse pour être laissée aux politiques.
Jérôme Marty, président du syndicat de médecins UFML, propos recueillis par Stanislas Vazak. Cette grève glissante pourrait devenir illimitée à partir du 3 février si leurs revendications ne sont pas entendues. Elle se poursuit dans les transports, 30e jour. Aujourd'hui, un record, 2 TGV sur 3 en moyenne vont circuler, ainsi qu'un TER sur 2. À Paris, 15 lignes de métro sur 16 sont ouvertes, mais souvent partiellement et uniquement aux heures de pointe, précise la RATP. Que du gris et de la pluie aujourd'hui, ou presque. Le temps sera voilé, mais quand même plus lumineux près de la Méditerranée. Vous n'aurez pas plus de 7 degrés à Strasbourg et Lyon, 10 à Lille, 12 à Paris et Bordeaux et 13 degrés à Marseille, Guillaume.